dimanche 4 juillet. Le journal Laurence Thomas. Bonjour Laurence.
Bonjour. Premier revers pour Joe Biden sur le front du Covid. En ce jour de l'Independence Day, aux États-Unis, le président américain espérait davantage de personnes vaccinées. 400 000 personnes menacées de famine en Éthiopie, guerre civile au Tigré. L'aide humanitaire ne peut être acheminée. C'est terminé en France pour les boîtes en polystyrène, pour les kebabs. C'est loin d'être anecdotique. 350 millions de kebabs sont consommés chaque année en France. Et puis le Tour de France, on s'arrêtera sur l'extraterrestre. Pogacar va-t-il gagner le Tour ? Oui, si ça continue comme ça, à moins qu'il ne tombe.
Un mot sur les invités de cette matinale. Patricia Martin, dans 20 minutes, vous recevrez...
Alix de Saint-André pour un récit intitulé 57 rue de Babylone, Paris 7e. C'est un récit donc publié chez Gallimard.
L'histoire d'une pension de famille. Et puis à 8h20, question ce matin à l'économiste Jean-Joseph Boileau. Il est spécialiste des pays émergents et il signe chez Odile Jacob ce livre « Utopie made in monde, le sage et l'économiste ».
France Inter. Il n'y a pas qu'en France où la vaccination patine. Aux États-Unis, Joe Biden espérait atteindre la barre des 70% d'adultes primo-vaccinés contre le Covid avant ce dimanche 4 juillet, jour de l'indépendance. L'objectif n'est pas atteint, à quelques millions de doses près. Pour le président qui a fait de cette campagne de vaccination la priorité du début de son mandat, c'est un premier revers face à l'épidémie. La correspondance à New York de Loïc Loury.
Un compteur bloqué à 66,8% d'adultes ayant reçu une première dose, la campagne vaccinale plafonne outre-Atlantique malgré la bonne volonté de la Maison-Blanche. Joe Biden peine à convaincre une partie de l'Amérique rurale et conservatrice en particulier d'aller se faire vacciner. Dans le détail, les disparités sont énormes d'un état à l'autre. 85% de primo-vaccinés dans le Vermont, à peine 46 dans le Mississippi. Actuellement, environ 1 million de doses sont injectées chaque jour, loin des records d'avril à plus de 3 millions, insuffisant pour empêcher une légère hausse des contaminations ces dernières semaines. L'inquiétude grandit. Par ailleurs, face à la propagation du variant Delta, le port du masque en intérieur est d'ailleurs de nouveau recommandé à Los Angeles. Mais cela n'empêchera pas les Américains de profiter de ce week-end prolongé. Près de 50 millions ont pris un avion ou leur voiture pour voyager. Joe Biden, lui, prévoit de fêter l'indépendance face au virus à la Maison-Blanche. New York, Loïc Loury, France Inter.
En France, si la pression continue de baisser sur les hôpitaux, 17 malades sont entrés en réanimation ces dernières 24 heures. Ils étaient 14 il y a une semaine. Ceux qui attendent pour se faire vacciner commettent une erreur, met en garde Alain Fischer, le monsieur vaccin du gouvernement. Le président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale insiste dans le journal du dimanche. En se vaccinant aujourd'hui, on est protégé pour la rentrée. Tout se joue, dit-il, dans les 15 jours à venir pour éviter, selon lui, cette quatrième vague liée à la fois au variant Delta. Et sur le site du journal du dimanche, cette tribune d'une centaine de médecins qui demandent au gouvernement de rendre la vaccination obligatoire dans les hôpitaux et les EHPAD. Une question qui sera abordée lundi par le Premier ministre. Jean Castex doit recevoir les chefs de file du Parlement ainsi que des élus locaux.
La situation est tragique en Éthiopie. Autre chose alors ? Je vous vois faire la tête. Il y a un autre sujet.
Non, situation tragique en Éthiopie. Plus de 400 000 personnes ont franchi le seuil de la famine au Tigré. Tigré, région du nord de l'Éthiopie, en guerre depuis 8 mois. 5 200 000 personnes ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence. Aide alimentaire pour l'instant bloquée car le Tigré est coupé du monde. L'organisation exhorte les rebelles à appliquer le cessez-le-feu décrété par l'Éthiopie. Correspondance de Noé Ochebaudin depuis Addis Abeba.
La famine touche 400 000 Tigréens selon l'ONU, presque 1 million selon les États-Unis. Washington qui demande justement un accès libre et sécurisé au Tigré pour les ONG, car oui, le gouvernement éthiopien a déclaré officiellement un cessez-le-feu humanitaire en début de semaine. Mais c'est bel et bien un blocus auquel on assiste aujourd'hui, assure le membre d'une ONG internationale à Addis Abeba. Le Tigré est complètement enclavé. En plus du blackout de l'électricité, des télécommunications et les pénuries d'essence, toutes les liaisons aériennes sont coupées. Jeudi, un pont essentiel pour l'acheminement de la nourriture a été détruit et les autres accès sont bloqués par le gouvernement éthiopien. Le programme alimentaire mondial n'a pu faire entrer aucun camion dans la province depuis une semaine maintenant, et alors que plus de 90% de la région est en besoin d'aide alimentaire. Un cessez-le-feu crédible est donc nécessaire pour résoudre cette tragédie aux proportions historiques, selon les mots de l'Agence humanitaire des Nations Unies. Addis Abeba, Noé Ochebaudin, France Inter.
Un avion militaire transportant au moins 85 personnes s'est écrasé aujourd'hui dans le sud des Philippines. 15 personnes ont pu être sauvées de l'appareil en feu, un C-130 qui s'est écrasé alors qu'il tentait d'atterrir sur l'île de Jolo. C'est le premier gros incendie de l'été en France, à quelques kilomètres de Narbonne, dans le massif de la Clape. 250 hectares partis en fumée. Le feu, dont on ignore encore l'origine, est désormais sous contrôle et les 170 personnes évacuées ont pu réintégrer soit leur camping, soit leur domicile.
La politique en France, et ça se bouscule au portillon chez les Verts pour la primaire des écologistes. C'est prévu mi- et fin septembre.
Et à ce jour, 4 candidats veulent concourir pour l'Élysée. L'économiste de gauche radicale et féministe Sandrine Rousseau, l'eurodéputé Yannick Jadot, le centriste Jean-Marc Governatori et le maire de Grenoble, Éric Piolle, qui tenait hier soir son premier meeting à la cité fertile de Pantin. C'est le reportage de Laurence Perron.
Clairement, une opération séduction militant pour le candidat Piolle.
Le pôle écologiste sortira uni de cette primaire.
Très d'esprit.
Les ayatollahs, les Khmer verts, les Amish, machin, bon, moi c'est Piolle pote. Ça marche bien avec les Khmer verts, Piolle pote et les Khmer verts.
Et une agilité médiatique qu'on ne lui connaissait pas.
Si vous voulez organiser un bon débat sur CNews, bah vous prenez, Gérald Darmanin et Barbara Pompili. Ça doit marcher, doit se passer quelque chose.
À ses côtés, la sénatrice écolo Esther Benbassa, Mohamed Meshmash, militant de la justice pour les quartiers populaires, l'ancien patron des Verts, l'eurodéputé David Corman et l'ex-candidate présidentielle Eva Joly.
Il n'y a pas d'avenir pour nous si nous n'arrivons pas à combattre ces inégalités. Il faut réglementer et réguler les multinationales pour que l'impôt soit plus progressif. Je sais qu'Éric partage mes idées là-dessus.
Le talent, c'est 10% d'inspiration et 90% de transpiration, assure le candidat Piolle. Face à ses compétiteurs, Jadot, Rousseau ou le centriste Governatori, Éric Piolle va transpirer pour une écologie qui prend racine dans la gauche tendance commune de Paris, insoumission sociale et gilets jaunes, mais il l'assure ancré. Espoir, c'est d'ailleurs son slogan, est scientifiquement contrôlé.
Laurence Perron, Yannick Jadot est lui en meeting à huis clos ce week-end à Colombes avec ses soutiens régionaux. Emblème de la culture populaire et de la restauration rapide, les boîtes à kebab en polystyrène sont interdites depuis quelques jours, depuis le 1er juillet, comme le prévoit la loi anti-gaspillage. Les kebabs ont eu 6 mois pour trouver des solutions alternatives. Et quand vous savez que 300 millions de kebabs sont consommés chaque année, eh bien c'est moins anecdotique qu'il n'est paraît, Sandy Dauphin.
Les boîtes à kebab bannies sont celles qui sont fabriquées avec un plastique mou et épais, le polystyrène expansé. C'est une matière non recyclable, pourtant chaque année des millions de boîtes sont écoulées, comme dans le restaurant kebab d'Akan Kampola.
Entre 100 et 150 par jour, on va faire la même chose, mais au carton. Ça nous coûte plus cher, peut-être 30 euros plus ou 40 euros plus. Par carton, le 500, on achetait 30. Là, 500 en carton, ça va faire 60, 70. On n'a pas le choix.
Un emballage plus durable, c'est plus cher. Aujourd'hui, reconnaissent les fournisseurs qui proposent plusieurs alternatives à la boîte à kebab traditionnelle. Marie Garnier, directrice RSE chez Métro France, grossiste alimentaire pour les restaurateurs.
Vous avez en fait une option en carton. Vous avez également un matériau ici qui est du polypropylène expansé. Donc ça reste une matière plastique, mais qui est recyclable.
Et vous me disiez une troisième option.
C'est de la pulpe. En fait, c'est un sous-produit de la canne à sucre. On utilise en fait les fibres végétales de la canne à sucre qui sont transformées en forme de pâte à papier, un peu plus rigide, pour faire des alternatives au plastique.
Cette boîte à kebab en pulpe est compostable, mais aujourd'hui, il n'existe pas encore, sauf quelques initiatives locales, de filières de collecte et de recyclage pour ces nouveaux emballages compostables. Ils finissent donc encore dans la poubelle normale.
Sandy Dauphin, une cyberattaque géante aux États-Unis visait la société américaine Kaseya juste avant un week-end prolongé pour demander une rançon à potentiellement plus de 1000 entreprises à travers son logiciel de gestion informatique. Et du coup, dégâts collatéraux en Europe. En Suède, une chaîne de 800 supermarchés ont dû fermer à cause d'une paralysie de leur caisse. Joe Biden, le président américain, a d'ores et déjà annoncé que si la Russie était impliquée dans cette affaire, il y aurait des conséquences. Le sport avec le boss du Tour, le Slovène de 22 ans, Tadej Pogacar, le vainqueur sortant du Tour de France, a mis KO ses adversaires dès le premier rendez-vous en montagne. Et les écarts au général sont désormais énormes après seulement 8 jours de course, exception faite du Belge Wout Van Aert, qui a couru en vain après son rêve de maillot jaune. Il est deuxième désormais à 1 minute 18 de l'extraterrestre Pogacar. Les suivants pointent à plus de 4 minutes et demie. Une démonstration de force inouïe. Le Tour de France pourrait être déjà plié. Écoutez ce qu'en pense Jean-François Bernard, le consultant de Radio France.
S'il tombe pas Je vois pas comment il peut être battu parce qu'il repousse tous ses adversaires les plus directs. Pour moi, c'est Carapaz ou Rane à plus de 5 minutes. Donc après, comment ils vont faire pour lui reprendre 5 minutes? Il grimpe, il roule vite contre la montre. Il est une équipe en plus qui marche. C'est lui qui attaque, il n'est pas attaqué. Il attaque de lui-même en disant on va essayer de renverser la situation, de carrément plier le tour. C'est ce qu'il a fait, ça a réussi. J'ai 59 ans, j'ai jamais vu ça depuis que je suis des Tours de France et que je suis consultant. Je veux dire, c'est pour moi, là, il fait partie des prodiges pour l'instant. Maintenant, attendons la suite. On a encore 15 jours à survivre, là. Et les autres du peloton aussi, il faut qu'ils survivent. Il faut tenter de renverser la situation, mais comment? C'est le grand point d'interrogation.
Le consultant de Radio France sur ce Tour de France, Jean-François Bernard. 9e étape ce dimanche entre Cluses et Tignes, 145 km.
C'était le journal de Laurence Thomas. Le temps de ce dimanche.
La météo avec Pavillon France, la marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
Jean-Michel Golinski, vous nous promettez un nouvel épisode de pluie et d'orage, rien que ça.
Oui, en effet, seule la Corse va rester totalement à l'écart. Ailleurs, il sera difficile de passer entre les averses et d'échapper aux orages. Ce temps instable qui survole actuellement une large moitié ouest va filer en journée vers les Alpes, les frontières du nord et du nord-est. À l'arrière, cet après-midi, l'ouest du pays va retrouver un ciel plus serein. Et dans le golfe du Lion, le temps va se dégager en seconde partie de journée, grâce à la tramontane qui va s'élever vers 70 km/h. Les températures moins élevées qu'hier vont afficher une moyenne de 21 degrés du nord de la Loire aux frontières belges et allemandes. Il fera 22 à 24 du centre Val-de-Loire au sud-ouest et en Rhône-Alpes, 25 à 28 de la Côte d'Azur au golfe du Lion et 29 degrés sur la Corse.
Jean-Michel Golinski, Météo France.